Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tout le monde. Très heureux de nous retrouver. Non, mais c'est vrai, moi j'aime bien venir à Redon. C'est une belle ville d'abord. Et puis, voilà, merci monsieur. Il y a des gens gentils à Redon, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'aime venir vous voir. Mais j'ai quelque chose à vous dire ce matin. Voilà, vous êtes prêts à l'entendre ?
Amen.
Ouais, c'est pas la foule, mais bon. Allez, voilà, moi j'aime bien faire des petits clins d'œil comme ça de temps en temps. Hein. Et pourtant, je suis très sérieux. Voilà. Alors, nous allons ouvrir notre Bible, si vous voulez bien. Et nous allons, en effet, bien lire un premier passage qui se situe dans le livre de Jérémie. Voilà, un livre qui nous en dit beaucoup sur la vie spirituelle, sur la personne de notre Dieu créateur. Et nous allons ouvrir donc le chapitre 23, simplement un verset, hein. Et après nous irons voir, fouiller dans d'autres passages, d'autres livres. Jérémie, chapitre 23 et verset 28. La dernière partie du verset 28, si vous voulez bien, il est dit ceci: pourquoi mêler la paille au froment, dit Dieu, dit l'Éternel. Remarquez bien, pourquoi mêler la paille au froment? Il y a là, eh bien, finalement un mélange incompatible dans ces deux matières. Le paille, retenez bien le mot paille, parce qu'il va être l'objet de notre méditation, toute notre méditation. Pourquoi mêler la paille au froment? Donc, voici le premier passage. Ce que je voudrais dire, avant d'aller plus loin, c'est que la paille, c'est quelque chose de très très léger. Plume au vent, ou tout simplement, eh bien là, le poids d'une plume, c'est pas grand chose, hein. D'ailleurs, après les moissons, souvent, eh bien, auprès des champs, dans les champs, il y a toutes sortes de paille qui volent, tout simplement. Et je pense qu'il y a la notion de légèreté. Voilà. De légèreté que nous allons, en effet, étudier dans tout simplement ce qui est positif et ce qui est négatif également. La Bible nous en parle. Et puis, je voudrais simplement donner une petite anecdote. Je suis tous les trois mois obligé d'aller voir mon médecin. Ça va mieux, hein. Comment vous me trouvez chez Bonne Mine?
Oui.
Bon, d'accord. Parce que je vais voir mon médecin. Alors, il y a des examens qui reviennent depuis des années, hein. Voilà, il y a les poumons, enfin bon, il y a toutes sortes de choses. Et, en finale, il y a le pesage. Alors, c'est toujours quelque chose, ça varie très très peu chez moi. Hein, vous allez le savoir, j'ai toujours entre 77 et 78 kilos. Je n'ai jamais déplacé les 130 kilos. Et pourtant, je vous dis, ma femme me nourrit bien. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est vrai, ça reste toujours très stable. Alors ça, c'est une chose que je voulais vous dire, parce que c'est quand même assez particulier. Et puis, nous allons prendre un deuxième texte, c'est dans 1 Rois, chapitre 18, et nous allons lire, en effet, eh bien, ce passage. Vous connaissez l'histoire Bénie au Mont Carmel. Oui, il y a toute une histoire qui vient se greffer sur ce que nous avons lu tout à l'heure. Alors, chapitre 18, 1 roi, chapitre 18, verset 20, et ensuite nous prendrons un autre passage dans le même chapitre. Alors, verset 20. Akab, qui est le roi d'Israël, un ennemi de Dieu, on peut dire. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie le prophète s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Donc, en d'autres termes, ça veut dire « Faites votre choix. » Et puis nous partons maintenant sur le verset 36 à 39. Il est dit ceci, tout simplement, au moment de la présentation de l'offrande, pendant cette cérémonie, qui est une cérémonie de test, une cérémonie où, véritablement, il y a là de l'occultisme, toutes sortes de choses. Le prophète, là, Élie parle de Dieu, et puis il y a 450 prophètes de Baal, c'est-à-dire des faux prophètes, qui sont là. Alors, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Enfin, il ne cloche pas des deux côtés. Mais il faut une manifestation surnaturelle, un miracle, pour que les choses, en effet, se révèlent dans cette situation. Choisir le Dieu créateur qui est un rocher stable. Et puis, ou alors le Dieu Baal, tout simplement, qui n'est que de la paille. Voilà. Dieu créateur, sauveur, souverain, maître du ciel et de la terre. Et puis à côté, le choix de la grande majorité, finalement, des prophètes de l'occultisme et du peuple d'Israël. Et à un moment donné, tout le monde va dire « Mais c'est Dieu qui est notre Dieu !» Voilà, bon, les choses sont rétablies quelque part. Il nous arrive, tous les deux avec Myriam, de faire des promenades. Oui, parce que bon, il faut s'oxygéner de temps en temps. Puis comme on a eu un beau temps tout l'hiver, on en a profité au maximum. Voilà, on allait à la plage, on se baignait, entre novembre et décembre, janvier, février, comme aujourd'hui d'ailleurs. Un temps formidable par ici. Et nous allons souvent, ça nous est arrivé d'y aller en vélo, d'y aller à pied, il y a véritablement dans la région de Saint-Nazaire un pont qui s'appelle le pont de paille. Est-ce que vous connaissez ? Vous connaissez ? Vous allez y aller, vous verrez, parce que c'est un pont qui, évacue l'eau qu'il y a dans la grande brière, la brière. Alors, on peut s'imaginer un pont de paille. Ça a dû être un nom qui a été donné au moment du Moyen-Âge, où on n'avait pas toutes les infrastructures que nous avons aujourd'hui. C'est solide, les ponts, heureusement d'ailleurs. Et ce pont s'appelle le pont de paille. Et nous faisons là, quelquefois, des petites marches à pied. Et c'est très anecdotique, c'est le mot que je cherchais, le pont de paille, c'était une appellation d'hier, probablement du temps du Moyen-Âge, comme je disais, mais finalement, c'était pour franchir, et c'est toujours pour franchir, un petit cours d'eau que vous connaissez, c'est le Brivet. C'est le dernier petit fleuve, c'est très court, il y a 50 km. Et nous voyons que ce petit cours d'eau, le Brivet, se jette dans l'estuaire de la Loire. C'est le dernier versant nord de la Loire, tout simplement, qui se jette dans le grand fleuve. Et on en reparlera de la Loire, parce que c'est quelque chose de particulier. Et ça se jette ensuite, l'Esther se jette dans l'Atlantique. Alors, les eaux du Brivet, on les retrouve jusqu'au Mexique, et puis voilà, maintenant il faut les distinguer, hein, la différence qu'il peut y avoir, quoi qu'il en soit. C'est un passage, c'est une promenade très bucolique, parce que vous avez devant vous un espace très, très, très large. Parce que le Brivet, ça fait entre 30 et 40 kilomètres, hein, c'est presque un lac, hein, quelque part, on peut dire cela. Mais il y a des moutons, il y a des chevaux, il y a plein de maisons, naturellement, hein, dans tout cet espace. C'est quelque chose de charmant. C'est pour ça que nous, comme nous sommes un petit peu des rêveurs avec Myriam, on aime bien faire des petites promenades comme ça, parce que c'est très joli. Et c'est le terminal, je le répète, terminal en aval de la Grande Brière, à côté de ce pont monumental qui finalement, eh bien, va de Saint-Nazaire à Saint-Brévin. Voilà. Et je voudrais simplement vous rappeler que ça, c'est le grand concurrent, finalement, eh bien, de cette petite rivière qui se jette, qui vient alimenter une dernière fois les eaux de la Loire, hein, parce qu'après, il n'y a plus rien du tout. Hein. Donc ça, il y a le monumental. Et puis, il y a véritablement ce petit cours d'eau avec ce pont de paille. Vous savez que le pont de Saint-Nazaire mesure 3 km 300. C'est un des plus grands de France. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il franchit. Mais quand on va, par exemple, au mont Gerbier de Jean, vous y avez peut-être été? C'est dans le Massif central?
Non.
En Haute-Loire? C'est quelque chose d'étonnant. Moi, j'y suis allé il y a 2 ou 3 ans. Avec nos enfants, et vous voyez la Loire qui sort d'un tout petit trou, large comme la main. Et quand vous arrivez à Saint-Nazaire, mais ça fait plusieurs kilomètres de large, ah oui, entre finalement eh bien, la côte sud et la côte nord. Et ça c'est quelque chose, et nous voyons que ce pont monumental qui a été construit en 1975, inauguré par le président de la République, parce que quand même, il faut que les choses soient faites. Et nous voyons dans sa plus grande largeur, eh bien, ça c'est quelque chose, on a du mal à s'imaginer, vous rendez compte, large comme la main. Vous pouvez mettre la main, finalement, à la source. Et ça c'est étonnant. Alors, je reviens à mon pont de paille, parce que c'est quand même quelque chose. Alors, je voudrais vous donner un petit peu l'histoire du pont de paille. Je vous ai dit, peut-être, du temps de... dans les temps anciens, jadis, hein, eh bien, peut-être que les hommes avaient ce petit passage. Alors, il ne fallait pas mettre certainement eh bien, une grosse charge, parce que ben, vous tombiez tout simplement. Pont de paille. Et il y a certainement une raison, mais je n'ai pas été plus loin. Pont de paille, c'est un pont de liaison. C'est-à-dire, c'est passer d'une rive à une autre. Bon, ce n'est pas très large, hein, là, dans cet estuaire, finalement, du Brivet, quoi qu'il en soit. Ça nous permet de franchir d'une rive à l'autre, de passer, de faire une traversée qui évoque l'image de la médiation. Oui. D'ailleurs, sur notre ancien site internet, il y avait une belle photo qui avait été faite à l'époque, hein, et on avait marqué en croc très gros, en fronton, hein, en bandeau, et bien tout simplement, le pont entre Dieu et les hommes. Ouais, là, si vous en souvenez, hein, parce que bon, on a supprimé tout ça, parce qu'on a fait autre chose. Naturellement, il faut renouveler de temps en temps. Donc la médiation, et ça peut se comprendre sur le plan biblique, parce qu'il y a toute une histoire derrière, hein, et c'est à la fois, en effet, une comparaison. Vous savez, quand il nous est dit dans la Bible, eh bien, ces paroles, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est fait homme et qui était donné par Dieu pour véritablement que nous puissions passer d'une rive, c'est-à-dire la vie, à une autre, certainement l'éternité, le ciel, le paradis, le nouvel Éden, si vous voulez. Et nous savons que nous pouvons y rentrer, ça c'est le thème essentiel de l'Évangile, que nous pouvons être sauvés que par Jésus-Christ. Il n'a pas été donné d'autre nom par lequel nous devions être sauvés, à savoir le nom de Jésus. Vous connaissez, hein, c'est dans le livre des Actes, naturellement. Alors, Timothée va surenchérir et il va dire ce que je viens de citer, qu'il n'y a pas personne qui puisse véritablement nous faire traverser à travers tout ce que comporte la vie et l'existence, et de passer de l'autre côté pour rejoindre Dieu, mais nous l'avons déjà rejoint à partir du moment. Et ça, je voudrais vous dire que Jésus, ce n'est pas un pont de paille. Ouais. C'est un pont solide, plus solide que le pont de Saint-Nazaire, plus solide que tout ce qui peut être fait, d'une manière ou d'une autre, dans le monde, pour passer, pour traverser. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, il est dit que celui, que Jésus est celui qui peut sauver ceux qui s'approchent de lui, toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Ouais, ça c'est un petit peu le passeport. C'est le ticket de passage, comme il y a encore certains, finalement, ponts. Je pense sur le pont de l'île de Ré, on paie encore. Hein. Et puis il y en a d'autres aussi hein, qui sont à péage. Toutes sortes de choses. Alors, pour l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe, mais toujours est-il chez nous, c'est comme ça. Dans le livre des Hébreux, je suis en train de nourrir un petit peu avec des versets bibliques, là, pour que nous puissions véritablement prendre toute la mesure et la signification de ce message. Parce que nous devons atteindre, et nous sommes tous appelés, nous avons été choisis par Dieu, quoi qu'il en soit, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos religions, quelle que ait été notre vie, mais nous sommes appelés de l'autre côté du pont, parce que nous devons passer d'un rivage à un autre. Et vous savez, sur un pont, il peut y avoir du vent. Hein. Quelquefois, nous on traverse assez souvent, hein, quand on va à Saint-Brévin, ou plus loin pour Nîmes, ou des choses comme ça. Je peux vous dire que, même cette année, on a vu des choses, alors Myriam me dit toujours, tiens bien le volant. Tiens bien le volant. Elle me l'a dit encore ce matin, mais on n'est pas sur un pont, on était sur la route, elle croyait qu'elle était sur le pont. Mais véritablement, elle a été sur le pont de bonheur ce matin, je tiens à vous le dire. Attention aux mots, hein, naturellement. Rivage d'en face, parce que c'est une destination qui nous est dévolue par Dieu, et c'est une destination qui est dans le fond du cœur des hommes, parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité en chacun d'entre nous. Nous refusons, nous rejetons, nous nions, nous sommes incrédules, ou alors à ce moment-là, nous écoutons. Et puis nous allons véritablement, eh bien, passer ce pont. Parce que ça s'appelle tout simplement la vie éternelle. Les hommes ont une hantise, c'est de mourir. Et quand on n'a pas d'espérance en Dieu, il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi, finalement, et c'est pour ça que les gens sont tendus. Destination espérée, la vie éternelle. Et nous pouvons dire qu'il y a, que je vais vous présenter maintenant, trois exemples anecdotiques, bibliques, où nous allons voir eh bien, ce qu'est la paille, ce qu'est le rocher, ce qui est le solide et ce qui est l'instable. Et ça, on peut le mettre finalement eh bien, dans notre vie d'homme. Vous savez, il y a des tempêtes hein, dans notre... Ouais, je parlais du pont là avec le vent et tout ça, mais moi je pense que notre vie, elle est faite de tribulations, elle est faite de toutes sortes de choses qui peuvent nous renverser, où nous n'allons pas tenir le coup, où nous allons nous effondrer, ou alors nous allons tomber dans l'eau du n'importe quoi, dans les eaux du n'importe quoi, et faire n'importe quoi naturellement en conséquence. Alors, plume au vent, on peut le dire, et nous allons petit à petit, comme nous avons ouvert le livre des rois tout à l'heure, eh bien, il y a Élie au Carmel. Dieu ou les faux prophètes, entre autres, les faux prophètes étaient serviteurs de Baal. Voilà. Et vous savez comment ça s'est passé? On l'a lu. Hein, voilà. Où Dieu va donner la preuve surnaturelle et miraculeuse que c'est lui qui est le Dieu, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Roi des Rois, à côté de tous ces braillards, nous pouvons dire, qui vont se faire des incisions, qui vont invoquer finalement eh bien, toutes sortes de choses qu'ils croient sur la terre comme des dieux. Alors, Dieu ou les faux prophètes. La deuxième chose, c'est un roi d'empire, dont nous parlons beaucoup. Il était donc dans la Mésopotamie ancienne. Il était fils ou petit-fils de Nebuchadnezzar. Ça vous dit quelque chose? Babylone. Et nous voyons que là, Eh bien, à un moment donné, Dieu lui a parlé par la bouche du prophète Daniel et il l'a trouvé léger, plus mauvais. Oui. En ce qui concerne Belshazzar, eh bien, nous voyons qu'il avait un Dieu bel, le Dieu bel à ce moment-là. C'était un drôle de personnage qui ne passait sa vie que finalement soit à faire la guerre ou alors faire la fête, tout simplement. Et Dieu va lui dire, mais voilà ce que tu es. Moi, je vais te dire ce que tu es. Tu es, en tant qu'empereur, un pont. Vous mettez où vous voulez le pont. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi, je te regarde. Je sais qui tu es et je t'ai trouvé léger. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Comme la paille, tout simplement. Et puis, on terminera dans cette conclusion, on parlera de cette fameuse parabole de Jésus, la maison sur le roc et la maison sur le sable. C'est pas de la paille, c'est lourd le sable. Mais là, c'est simplement pour illustrer le fait, hein, tout simplement. Alors, on va commencer par le syndrome de Belshazzar, si vous voulez. Syndrome, c'est une anormalité, hein, finalement, c'est neurologique, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas la vérité, c'est pas ce qu'il faut, hein, syndrome de Belshazzar. Et Dieu va lui dire ceci, tu as été trouvé léger comme la paille. C'est moi qui ajoute hein, comme la paille. Parce que c'est quelque chose, la paille, c'est vraiment, voilà, ça court, ça vole, tout simplement. Et c'est dans Daniel, chapitre 5, verset 26, et nous allons voir, on va prendre notre temps et découvrir ce qu'il en est. Alors, j'ai bien dit Daniel, chapitre 5, et verset, vous allez vous en souvenir, verset 26. Alors, il est dit cette parole, je reprends un petit peu plus loin, verset 24. C'est pourquoi Dieu fait un reproche, finalement par Daniel, à Belshazzar, il dira, mais c'est pourquoi Dieu a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Belshazzar, tu as été compté. Dieu a compté ton règne et il a pris fin. Tu as été pesé et tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parce que deux autres empereurs sont venus. À la suite de la chute de Babylone, dans ces circonstances, à Cyrus et à Darius. Alors, je ne vais pas rentrer dans la géographie et puis l'histoire, parce que vous connaissez le passage. C'est une vision de l'extrémité d'une main qui apparaît, et nous voyons que cette main va inscrire ces trois mots, ces trois verbes, et il y aura naturellement compter, peser, diviser, compter parce que ton règne a été compté, et il va disparaître, il va se perdre. Tu perdras l'empire, en quelque sorte, en raison finalement des facéties de ce mauvais empereur. Hein? Voilà. Et puis, il est question de peser sur une balance. Tu as été trouvé léger. Ensuite, la main va inscrire, diviser ton royaume, te sera, eh bien là, dans la désunion complète, et il va passer sur d'autres pouvoirs, d'autres souverains. Le livre de Job nous dit ceci, Dieu pèse les hommes avec des balances justes. Mes frères et sœurs, s'il y a véritablement une vertu à manifester et à véritablement en comprendre tout le sens, c'est que Dieu est un Dieu de justice, et que Jésus nous a fait justes, non pas parce que nous sommes justes, mais parce que nous croyons en Jésus. Nous avons été, selon le terme, justifiés, tout simplement. Mais il veut que chacun d'entre nous, nous soyons justes dans nos jugements, justes dans nos appréciations, justes dans nos paroles, justes avec l'argent, justes avec tout ce qui peut être une convoitise, finalement, innommable dans le monde. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Dieu nous pèse avec justice, avec des balances justes. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit ceci au chapitre 2, en parlant des hommes, ils sont plus légers qu'un souffle ensemble, comme la paille qui vole au vent. Voilà. Voilà l'humanité, voilà ce que Dieu juge auprès de cet empereur, hein. Belzébul, Belshazzar, excusez-moi, Belzébul, c'en est un autre, c'est celui qui me manipule. Vous avez compris ce que ça veut dire. Parlons de la paille, dans sa constitution, dans ce qu'elle est. La paille, c'est un élément léger, par nature. Parce que on ne cultive pas de la paille, on cultive finalement le blé qui donne la paille. Hein, on ne mange pas. Si les animaux mangent de la paille. Voilà. Hein. Ce midi, si vous n'avez pas eu le temps d'acheter une salade cette semaine, eh bien, achetez une botte de paille et puis vous allez la manger aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un peu sec. Mais bon, quoi qu'il y en a qui aiment ça. Quoi qu'il y en a qui peuvent aimer. Donc, c'est un élément léger. C'est un élément fragile qui évoque la précarité. C'est tout ce que nous avons dit hein, jusqu'à maintenant. Et nous voyons que c'est un élément qui s'enflamme et qui peut prendre feu très rapidement. Oui, tout simplement. Et vous savez ce qui est extraordinaire dans la leçon que Dieu veut nous donner, nous à l'Église d'aujourd'hui comme à l'Église de tous les temps ? C'est ce qui nous est dit dans Ésaïe. On va le relire parce que ça, c'est aussi forcément très connu. Et vous allez voir que Dieu a choisi les choses qui ne paraissent pas, les choses insignifiantes, pour confondre les fortes et pour nous donner, attention, parce que cette force que Dieu attend de nous, elle vient d'en haut et elle ne vient pas d'en bas. Vous savez, on entend aujourd'hui que finalement les victoires de guerre qu'il y a actuellement, eh bien elles se prennent par la force. C'est une erreur. Parce que, vous savez, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Il va y avoir des morts. C'est terrible ça. Hein. Alors ça dépend avec quoi nous construisons. Hein. Est-ce que c'est de la paille? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du carton? Est-ce que tout ça, ça ne tient pas la route, naturellement. Et quand Paul l'écrit, c'est parce qu'il veut nous dire encore une fois, eh bien, tout simplement, que faut regarder en haut et pas regarder en bas. Parce que si vous voulez regarder en bas, vous allez aller en bas. Ça, c'est sûr. Et si nous regardons là-haut, nous irons là-haut. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Écoutez bien, c'est un beau texte. Il est dit ceci, « Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, c'est ce que nous reconnaissons Jésus à la croix, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ceux qui n'auraient pas été racontés. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et ensuite, dans la suite, vous pourrez le lire chez vous, vous verrez un peu la personne de Jésus. Comme un fétu de paille. Oui, il s'est présenté comme un simple homme. Il s'est présenté avec un visage défiguré. On n'a pas porté attention, et c'est précisément, finalement, ce fétu de paille qui va devenir, eh bien, ce qu'il est devenu. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une... Et ça, ce sont les paradoxes divins. Je les appellerai les paradoxes divins, où Dieu va chercher la faiblesse pour, finalement, eh bien, montrer sa gloire. Et ça, c'est véritablement, eh bien, toute l'illustration de Jésus dans l'Évangile. C'est lui qui est comme ça. Donc, la paille, c'est léger, c'est fragile, c'est la précarité. La flamme, peut-être, la paille peut être détruite en un instant. Et c'est pour ça qu'il nous est présenté dans cette, contre-vérité pour nous, les hommes. C'est pour ça qu'il nous est présenté un sauveur qui est rempli de modestie, d'humilité, de faible valeur, comme notre fameux pont de paille que nous avons, dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais je voudrais vous dire que le pont de paille, qui n'en a que le nom aujourd'hui, a été construit maintenant en béton. Si je vous invite à aller là-bas, vous n'allez pas vous noyer, parce qu'il est solide. On y passe avec des vélos. Et comme je n'ai jamais dépensé les 130 kilos, ça passe pour moi encore. Hein. Mais une chose qui est certaine maintenant, c'est presque un barrage. Hein. Mais on n'est plus dans le Moyen-Âge. Hein. Parce que tout ça évoque, le pont de paix évoque une sécurité incertaine. Les hommes marchent sur des routes, sur des sentiers, passent des ponts, mais il n'y a aucune sécurité. Et sur quel pont, vous pouvez les deviner, hein, quoi qu'il en soit. Hein. On s'affranchit de toutes sortes de choses, de toute prévention. On nous dit c'est interdit. C'est comme pendant les inondations. Il y avait des barrières d'inondation. Ben, les gens passaient quand même. mais c'était la dernière fois qu'il passait. Hein. C'est pour ça qu'il y a une folie chez l'homme. Hein. Ils aiment bien, finalement, et bien tenter, peut-être le diable. Et nous voyons que ça, c'est le pont de paille, c'est une sécurité incertaine, c'est éphémère, c'est chancelant. N'est-ce pas l'image des religions dans lesquelles les hommes se confient? Eh oui. Vous savez, on a été élevés dans une religion pour la plupart d'entre nous. Mais pourquoi en sommes-nous sortis? C'est parce que finalement, ça ne nous inspirait pas confiance. Après vérification de la parole de Dieu, après avoir été éduqués, après avoir été peut-être maltraités, parce qu'on entend des témoignages, hein, scandaleux, toutes sortes de choses. Les religions, ce sont des ponts de paille. Eh oui, on ne parle pas, finalement, eh bien, de ce qu'il faudrait annoncer l'évangile de la personne de Jésus, mais on n'y parle que finalement, eh bien, ça s'en va un petit peu à volo, tout ça. Hein. Oui, pont de paille, n'est-ce pas les religions des hommes? Les traditions illusoires qui nous viennent, soit finalement, eh bien, de toute cette piété, parfois douteuse, et où on peut véritablement traverser qu'en raison de nos mérites. Non, on n'est pas agréé par Dieu parce qu'on a des mérites à faire valoir, ou on les fait valoir, mais on a quelqu'un qui véritablement est notre conducteur dans tout cela. Et il s'appelle Jésus, parce que lui, il est solide. Il est véritablement solide. Alors, pas de mérite pour gagner le ciel. La loi, eh bien, au lieu de la foi, est proposée. Et nous voyons que ça, c'est le message, tout le message du Nouveau Testament avec Jésus. L'Évangile, simplement. Passer le pont de paille. Oui. Cette petite illustration. Vous savez, il y a des gens qui vont hésiter. Il y a des gens qui sont dans la décision, qui sont dans l'incrédulité, entre le mouvant et le solide. Vous voyez, écoutez finalement ce que je viens de dire par la religion, par toutes ces philosophies qui existent, où les gens, durs comme fer, y croient, au lieu de croire à l'Évangile, qui est beaucoup plus simple, finalement, à saisir. Ça, c'est sûr. Mais c'est l'histoire d'Élie, au Mont Carmel, quand il dira... Mais jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Nous avons besoin de prêcher l'Évangile dans notre monde aujourd'hui, hein, pour dire aux gens, peut-être pas de la même manière, mais jusque à quand boiterez-vous des deux côtés? Un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre. Nous avons choisi. Nous avons choisi l'Évangile, nous avons choisi Jésus-Christ, et Dieu nous a donné la sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, et nous avons des certitudes que nous irons au ciel.
Amen.
Ah, oui. Ah, oui. On marche pas sur la paille. On marche sur du solide. On marche sur du solide et non pas du mouvant. Et tout ça, le pont de paille, c'est la légèreté. Regardez, la légèreté des doctrines religieuses. Alors qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient d'une autre... Hein, on fait croire aux gens des choses, mais qui n'ont aucune valeur. Qui n'ont rien, finalement, et bien pour stabiliser nos convictions et nos certitudes, naturellement. Légèreté. Instabilité, précarité. Alors je ne vais pas être très long aujourd'hui parce que faut que je passe le pont, si vous comprenez. Mais toujours est-il, quel pont choisissons-nous? Je parle à des chrétiens, vous avez pris déjà l'engagement, vous êtes fait baptiser, vous avez été dans l'eau. Moi, en près de 45 ans de ministère, j'ai jamais vu un noyé. Ben, pour un arbre, mais non, non, vous comprenez, parce que ça a été choisi finalement par l'appel de Jésus, et c'est vrai, ça c'est sûr, hein. Et je crois qu'il faut le dire, et nous-mêmes, où en sommes-nous par rapport à nos choix entre le mouvant, ça bouge, et bien, ça peut être confortable, ça peut être amusant aussi, ou alors, tout simplement, et bien là, ce qui est solide, ce qui est robuste, nous pouvons le dire comme ça. Le rivage d'en face, parce que nous sommes appelés à cela, c'est le message de l'Évangile. Et c'est toujours un choix essentiel pour traverser la vie. Moi, je mets ça finalement, eh bien, entre le versant d'une manière et le versant qui est en face. Parce que c'est un passage de la vie. Hein. Et on a besoin d'avoir des certitudes et des assurances. Il y a quelque chose qui, véritablement, nous donne la carte pour passer, c'est la foi. Ouais. C'est pas la loi, c'est pas l'Ancien Testament. Non, parce qu'on l'a essayé, l'Ancien Testament, ben, les Juifs l'ont essayé, et ça n'a jamais rien donné, puisque Dieu avait déjà dans son plan, il avait les deux. Mais Dieu, véritablement, a quelque part mis de côté l'Ancien Testament et la loi pour nous donner de rentrer dans cette dimension de perfection. Tout est accompli, nous dit Jésus à la croix. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire sinon que de croire pour eh bien, atteindre, tout simplement, traverser la vie. Vous savez, moi, je crois qu'il y a un bonheur à traverser la vie, malgré les détresses, malgré les vicissitudes, malgré tout ce qui peut se présenter. La vie n'est pas facile, ça c'est certain. Mais il y a quelque chose, le monde peut bouger à l'extérieur de nous-mêmes, mais notre cœur, lui, et notre âme, notre esprit, il est fondé. Ouais, il est fondé, il n'est pas sur de la paille. Vous savez, quand on dit que les gens ne réussissent pas la vie, ils ont dit, ben, ils ont tellement fait de bêtises ou de choses où ils n'ont pas su faire. Eh bien, ils sont sur la paille. Ah oui, mais ils vont y rester. Hein. Parce que le seul moyen pour en sortir, pour véritablement, eh bien, rechercher ce qui est solide. Et ce qui est solide pour le monde d'aujourd'hui comme pour le monde d'hier, eh bien, c'est véritablement de croire en Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. C'est ce que Jésus, en effet, nous rappelle. Je reviens à la main prophétique qui inscrit sur le mur, mais le mur de nos cœurs. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas finalement nos connaissances. Ce n'est pas ce que nous sommes et que nous avons appris, mais ce que véritablement Dieu a mis par le Saint-Esprit au fond de nous-mêmes. Comptez. Dieu nous regarde et Dieu nous compte et il évalue parce qu'il nous connaît parfaitement. Alors écoutez-le. Écoutons-le. Il y a naturellement cette écriture où il est dit « Tu as été trouvé léger ». Oui, ben, ça veut dire tout simplement que Dieu t'a pesé et il nous pèse tous les jours. Ne dévions pas de la voie qu'il nous a montrée, dans laquelle il nous a engagés. Et cette balance divine qui révèle la vérité de la vie des hommes, il nous connaît, on n'a rien à cacher. Vous savez, les grands adversaires de Jésus dans l'Évangile, c'était eh bien, les pharisiens avec leur hypocrisie. Paraître bien alors qu'ils sont mauvais. Oui. Et ils n'ont pas voulu en démordre. Hein. Et nous voyons ce qui s'est passé. Ils se sont vengés contre Jésus pour les paroles qu'il leur a données. Et puis ils l'ont crucifié tout simplement. Mais la chose, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, Jésus est ressuscité. Ouais. Ils ont voulu le mettre à mort, mais la mort n'a pas vaincu Jésus. Pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui est du solide. La crucifixion, la résurrection, son ascension au ciel et son retour bientôt au milieu de cette terre de misère, de souffrance, de peine, de guerre. Léger, cette balance divine, nous avons été pesés, nous sommes encore pesés. Et quelquefois, à travers cette petite boussole que nous avons, qu'on appelle, eh bien, tout simplement la conscience, je nous le rappelle de temps en temps. Tu prends du poids. Mesdames, messieurs, surtout ne prenez bien les choses, hein, parce que je n'ai pas envie que ça déclenche pour vous la boulimie. Pire. Alors, divisez, parce que Dieu veut véritablement que nous soyons des hommes et des femmes stables. L'instabilité n'est pas bonne pour un chrétien. Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin de ses conseils. Oui, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et tu ne t'en détourneras pas, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin également d'iviser, d'éviter tous les partages et les divisions, même dans nos églises, dans nos couples, dans notre vie sociale ou autre chose. Parce que tout ça, ça s'appelle des fracturations. L'église, elle est malade d'être fracturé de droite et de gauche. Et vous savez, ça vient de quoi? La langue. Louons le Seigneur, bénissons-le, glorifions Jésus, mais ne disons pas de mal les uns les autres. Parce que le Seigneur, nous, vous avez entendu, il a une balance juste, quoi qu'il en soit. Parce que tout ça, eh bien, ça sépare l'unité que Dieu a voulu. Oui, Jésus le dira, moi et mon Père, nous sommes un, et nous devons être un. Même s'il y a des différences, de religieuse, de piété, de forme, de fond. Ah, ça, le fond, on ne discute pas, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, on va faire maintenant, avant de terminer, la vérification de tout ce que je viens de vous dire. Pompaille. Jésus nous dit cette parole, et je le reprends parce que ça va être le dernier verset que nous allons partager ensemble. Il nous est dit ceci, et je vais le relire parce que c'est quand même important. Matthieu, chapitre 7 et verset 24. Écoutez bien, on va le lire tranquillement, parce que c'est l'essentiel. C'est pourquoi, quiconque entend ma parole que je dis, c'est Jésus qui parle, et les met en pratique, mes paroles, la mise en pratique, sera semblable à un homme sage, prudent, attentif, obéissant, qui a bâti sa maison sur le roc. Bien lui en a pris à cet homme, parce qu'il va y avoir quand même des événements qui peuvent menacer tout l'édifice. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Ben oui, parce qu'elle se trouvait là. Mais elle était bien au bon endroit selon la volonté de Dieu, quoi qu'il en soit. C'est la manière dont elle est construite, c'est la manière dont elle va résister, c'est la manière dont elle va triompher finalement et bien de ces dévastations. Alors, la pluie, le torrent, les vents, tout ça ce sont des puissances, ont soufflé, se sont jetés sur cette maison, et elle n'est point tombée. Mes frères et sœurs, quelquefois nous avons dans notre langage, en parlant d'un frère ou d'une sœur, mais la fermée, peut-être qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'en veulent plus, eh bien, il nous est dit qu'elle est tombée. Oui, on appelle ça du rétrogradage. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, ça. Non, parce que c'est pas parce que les gens, quelquefois, eh bien, vont avoir des passages à vide, que finalement ils sont perdus, hein. Parce qu'ils peuvent revenir. Et vous savez, le Saint-Esprit, et ça c'est pour votre encouragement, on peut faire des bêtises, tous les uns les autres. On peut être entraîné dans toutes sortes de choses, au gré de la rivière, qui peut nous emmener très loin. Mais à un moment ou un autre, nous voyons que Dieu nous rappelle. Et ça s'appelle, finalement, eh bien là, la repentance. Et à partir du moment, un seul mot, comme le fils prodigue, mais le Seigneur nous reprend dans ses bras, pas de problème, et on repart. Et on repart encore plus fort parce qu'on a fait l'expérience de ce qu'est le mal dans sa réalité, parce qu'elle était fondée sur le roc, pas sur la paille. Mais quiconque entend les paroles que je dis ne les met pas en pratique, c'est-à-dire que il les entend, il les écoute, mais il ne les vit pas. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide et prions pour cela. Prions pour nos frères et sœurs, mais prions aussi pour nous-mêmes, pour que nous vivions ce que nous savons. Dieu ne va pas nous demander finalement de connaître les mystères et toutes les subtilités du monde dans le ciel, etc. Dans l'ultra ou l'ultra spiritualité. Non, il ne le demande pas. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique sera semblable à un homme. Le premier, il était prudent et sage. Celui-ci, il est complètement insensé parce que finalement, la parole de Dieu, Dieu lui-même, n'a pas finalement sa place dans son cœur, dans sa vie. Et il a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ils ont battu cette maison. Elle est tombée, le mot tombée revient trois fois, et sa ruine a été grande. Eh oui. Oui, oui. Vous savez, le Seigneur nous dit, attention où tu mets les pieds. Il faut que tu prennes un chemin solide, un chemin empierré, un chemin qui véritablement a été préparé pour la circulation sans danger. Mais attention, si tu marches sur la paille, tu vas prendre feu, parce que c'est véritablement eh bien, une des fragilités finalement de la paille. Puis elle peut s'effondrer, puis il y a toutes sortes de choses semblables. Jésus nous dit la maison sur le sable et la maison sur le roc. Pont de paille. Écoutez bien la nuance, elle est seulement sur un mot. Pont de paille et pont en pierre. Je ne parle pas du roc, mais enfin bon, c'est une construction moderne aujourd'hui. Pont en pierre. Seigneur, donne-moi de prendre le pont solide, celui où tu as la première place, tu as la priorité, où tu règnes sur mon cœur, tu règnes sur mes pensées, tu règnes sur ma vie, bien que je reste toujours un pécheur. Ça, c'est vrai. J'ai tellement besoin de toi. Donne-moi de prendre le pont en pierre, le pont de pierre, et non pas finalement, et de marcher sur la paille, parce que, on l'a vu ce matin, c'est d'une grande instabilité tout ça, c'est de la légèreté, c'est de la précarité. Fondement solide ou instable, Alors, je reprendrai l'interpellation d'Élie sur le mont Carmel. Jusque quand boiterez-vous des deux côtés? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Baal? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Non, nous avons besoin maintenant de nous affermir, de prendre de la force. Mais c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans ses épîtres. Hein. Édifiez-vous. Et puis, soyez finalement et bien là à suivre le Seigneur. Marchez pas devant lui, ça sert à rien. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés et à marcher dans un monde qui est en proie à l'effondrement? Est-ce que je me trompe en ce moment? C'est pas d'aujourd'hui, hein. Depuis Jardin d'Éden, c'est l'effondrement. On l'a vu. On est sorti. On est passé sur le rivage d'en face, mais le mauvais, finalement, côté. Et je pense que on a besoin de prier pour les prières, on a besoin de prier pour les pasteurs, on a besoin de prier pour les frères anciens, on a besoin de prier pour que nous puissions nous entendre les uns les autres. On a besoin de marcher ensemble sur ce pont en pierre. Et Jésus, il nous a dit que quelque part c'est la petite pierre. Vous connaissez dans Daniel, oui, la petite pierre qui va sortir je ne sais où, mais qui va véritablement être la base d'un monde nouveau, d'un monde qui, quelque part, eh bien, va véritablement nous amener à Jésus, qui est à la fois le médiateur, qui est à la fois le sauveur, qui est à la fois le, comment pourrait-on dire, le souverain maître. Il est Dieu, Jésus. Il est le roc. Un monde en effondrement. Vous savez, on ne sait pas où on va, là, ces derniers temps. Hein. Voilà ce qui est assez extraordinaire, c'est que tous ces hommes qui ont le pouvoir, qui se disent avoir la puissance universelle, la puissance du monde et tout ça, ils disent oui d'un côté, ils disent non le lendemain. Vous prenez les actualités? Mais comment? Mais comment un monde peut-il marcher de cette manière? C'est pas possible! Mais nous avons un roi, nous avons un chef, nous avons quelqu'un qui marche devant nous et qui nous a indiqué le sentier. Il est peut-être mystérieux ce sentier, mais on n'a pas besoin de tout comprendre, mais tout simplement, eh bien, de faire confiance. En voie d'effondrement et de grande précarité dont le fondement n'est que de paille. Oui, nous vivons dans une société qui n'est que de paille. Regardez l'histoire. L'histoire du 19e siècle, l'histoire du 20e siècle, les guerres, et puis tout ce qui peut se faire. Si on veut aller plus loin, même dans la technologie, l'intelligence artificielle, on va se croire maintenant supérieur à Dieu. Hein. C'est terrible, hein, ça. Il y a peut-être des bonnes choses dans les sociétés modernes. Ça, c'est certain. On ne va pas dire le contraire. Moi, je pense qu'en médecine, eh bien, c'est véritablement, il y a des choses dont nous pouvons vivre. Et ça n'empêche pas que nous croyons dans, finalement, la guérison divine. Ça n'empêche pas, de toute manière. Alors, ne mélangez pas, ne mêlez pas la paille avec le froment, c'est-à-dire l'excellence. Entre le commun et le vulgaire, ça, c'est la paille. On construit avec du vulgaire aujourd'hui. Tout est bon, tout est bien, tout est formidable pour apporter finalement, eh bien, toutes sortes d'amour illégitime, l'amour de l'argent, à commencer par l'amour de soi, l'égoïsme, etc., etc. Ça, c'est de la paille, mais ça tiendra pas. C'est pas possible. Même le plus intelligent des hommes, faisons le choix, eh bien, avec tout ce qui est extra, le solide, la stabilité et le supérieur. Alors, nous avons besoin, à travers ce message, non pas seulement de l'écouter, mais véritablement de le vivre. Seigneur, et on va prier pour ça, enfin de, maintenant, pour que Dieu nous donne de suivre les chemins, non pas qui nous fait marcher sur la paille, parce qu'il y a tellement de publicités qui sont faites pour marcher sur la paille. C'est doux la paille, c'est feutré on peut dire, mais il faut que nos pieds marchent sur du solide, sur le ferme, tout simplement. Vous voulez prier? On va prier ensemble, amen, tout simplement. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous ne sommes pas plus que les autres. Nous sommes des hommes comme les autres. Mais une chose que nous savons, et c'est pour ça que nous pouvons en parler, les autres n'en parlent pas puisqu'ils ne le savent pas, ou ils ne veulent pas le savoir. Mais une chose, Seigneur, ton Église, qu'elle soit évangélique, protestante, d'une manière ou d'une autre, quel que soit son nom, quelle que soit sa classification. Et puis, les religions, Seigneur, non chrétiennes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu n'es pas véritablement, Seigneur, à faire des sélections. Au contraire, tu nous unis dans celui qui est, eh bien, le roc. Tu es le rocher des siècles. Tu es véritablement celui qui a traversé le monde et qui connaît parfaitement le monde. Et tu nous as donné un sentier, tu nous as donné un chemin qui n'est pas tapissé de paille, oui, mais qui est véritablement empierré, solidement, stable, robuste. Et nous te remercions et nous croyons que ce roc, il s'appelle tout simplement Jésus-Christ. Sa parole, son exemple, sa vie donnée, sa crucifixion, parce que la croix a été plantée sur un rocher et non pas sur un milieu d'un champ. Et puis nous voulons croire, Père éternel, que tu reviens pour nous faire rentrer dans cette autre rive, sur l'autre rive, qui porte le nom d'éternel et céleste. Bénis mes frères et sœurs et donne-nous de prier pour que nous puissions tenir jusqu'au bout dans ce monde d'effondrement. Merci Jésus. Amen.